Jacques Derrida, pour faire retour finalement à cette question qui est restée en filigrane tout autour de votre travail et qui est une forme d'horizon de votre pensée, de vos pensées, c'est la question de la mort. Alors vous en parlez encore dans un de vos textes les plus récents, « Demeure », autour du texte de Maurice Blanchot, « L'instant de ma mort ». Et ce qui est singulier, c'est que finalement, cet horizon de la mort, c'est un lieu, mais c'est aussi une sorte d'impératif catégorique à devoir survivre.
Impératif catégorique.
Au moins dans le titre de votre dernier livre, « Demeure », c'est un lieu.
Oui, c'est un titre, et c'est un nom, d'abord, un verbe français d'une extraordinaire multiplicité, « demeure ». Et demeure, comme vous le savez sans doute, à l'origine, signifie remettre à plus tard, ou en tout cas, ça désigne le
différé.
C'est ça, le terme déterminé, le délai déterminé en termes de droit aussi, n'est-ce pas ? Demorari, ça avec le retard. La question du retard m'intéresse toujours naturellement beaucoup, beaucoup occupé. Et je n'opposerai pas la survie ou le survivre à la mort. Et il m'est arrivé même de définir le survivre, d'ailleurs dans un texte qui porte ce titre, le survivre comme une possibilité qui était différente ou étrangère aussi bien à la mort qu'à la vie. Hein. Comme un concept original. Le survivre est un concept qui ne se dérive pas. Et il y a survie dès qu'il y a trace. Et on part du survivre. Autrement dit, le survivre n'est pas simplement en alternative avec la mort ou le vivre, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si survivre est un impératif catégorique. Je crois que c'est la forme même de l'expérience et du désir inéluctable. Le survivre est, un certain survivre est inéluctable, même à travers la mort, ou même à travers l'expérience de l'anticipation de la mort. En tout cas, tout ce qui a pu me retenir à travers tant et tant de textes sur la mort, du côté de la mort, n'a jamais été contraire à la vie. Je n'ai jamais pu penser la pensée de la mort, ou l'attention à la mort, voire l'attente, ou l'angoisse de la mort, comme autre chose que l'affirmation de la vie. Donc ça, ce sont ces deux mouvements-là qui, pour moi, sont inséparables. Une attention, oserais-je dire, de tous les instants à l'imminence de la mort, qui n'est pas nécessairement triste, négative, même mortifère, qui est au contraire, pour moi, la vie même, la plus grande intensité de vie.
Mais vous l'articulez à la question du plaisir ou du désir ?
Sans doute, oui. Je n'imagine pas un désir qui naisse ou s'élance autrement qu'à partir de l'expérience de la mort possible. Oui. C'est la même chose. Et d'ailleurs, pour le dire en termes très désarmés et directs, je ne pense jamais autant à la mort possible, que dans les moments de joie, de plaisir ou de désir intense. C'est la même chose.
Mais à la fois, vous inscrivez toujours, d'une certaine façon, le plaisir sous le registre de l'indécidable. Enfin, je pense notamment à la carte postale, dans laquelle vous évoquez ce rapport au plaisir. Donc, il y a pour vous une sorte de confrontation entre...
J'hésite à me servir maintenant de ce mot d'indécidable, parce qu'on l'a si souvent interprété de façon ridicule, je dois le dire, comme paralysie, hésitation, neutralisation, de façon négative. Pour moi, l'indécidable est la condition de la décision, la condition de l'événement. Et puisque vous me parlez du plaisir ou du désir, il est évident que si je savait et pouvait décider d'avance que l'autre était bien l'autre identifiable, accessible au mouvement de mon désir, hein, s'il n'y avait pas toujours le risque que l'autre ne soit pas là, que je me trompe d'adresse, que mon désir n'arrive pas à destination, que le mouvement d'amour que je destine à l'autre s'égare ou ne rencontre pas de réponse. S'il n'y avait pas ce risque-là, qui est un risque de marqué d'indécidabilité, il n'y aurait même pas de désir. Il n'y aurait même pas de désir. Il y aurait, je ne sais pas quoi, une satisfaction si pleine et si initiale qu'il n'y aurait même pas le temps ou l'espace du désir. Donc le désir s'ouvre à partir de cette indétermination-là, hein, qu'on peut appeler l'indécidable, par exemple. Par conséquent, je crois que comme la mort, l'indécidabilité, ce que j'appelle aussi la destinérance, c'est la possibilité pour un geste, non seulement une lettre, mais un geste, un regard, une parole, de ne pas arriver à destination, est la condition du mouvement de désir, qui mourrait d'avance autrement. J'en conclus que l'indécidable et toutes les autres valeurs qu'on peut lui associer sont tout sauf négatives et paralysantes et immobilisantes. C'est exactement le contraire pour moi.
Mais alors, comment aujourd'hui, par exemple, vous imaginez votre propre mort? D'autant que vous avez aussi beaucoup articulé votre réflexion à celle de l'immortalité.
Je ne peux pas vous dire comment j'imagine ma mort. Je l'imagine de tant de manières. Et je dépense tant de ressources d'imagination de ce côté-là, et que, au moins par décence, je ne vais pas en encombrer vos oreilles ou celles de ceux qui vont nous écouter. Comment est-ce que j'imagine ? Il y a des formes, naturellement, particulièrement récurrentes de ces images. Hein, j'imagine des accidents, souvent des accidents. Des accidents de voiture, ça j'en ai souvent parlé. Ou des noyades, noyades ou accidents de voiture. Mais le théâtre du suicide est aussi présent, mais pour quelqu'un qui reste incrédule, je ne crois pas. J'y pense souvent, mais je ne crois pas que je sois suicidaire, que je ne crois pas à mon suicide, disons. Cela ne m'empêche pas de me jouer constamment le scénario du suicide, dans ma tête, on va dire.
Mais alors donc, pour venir aux questions d'avenir, qui ne sont pas celles de la mort. Quelles sont celles que vous considérez comme urgentes aujourd'hui ?
Alors, il y a des urgences qui me dépassent beaucoup et auxquelles je voudrais répondre avec d'autres, qui sont des urgences politiques, par exemple, au sens large du terme. Et puis, il y a des urgences qui sont plus, disons, singulières ou privées. J'aimerais, dans le temps qui me reste, mais vous savez, vous dites on va parler de l'avenir et pas de la mort, pour moi c'est un peu la même chose. Pas parce que je vieillis, mais toujours ça a été la même chose. Hein. L'avenir et la possibilité de la mort. Donc dans le temps qui me reste, qu'il en reste peu ou beaucoup, j'aimerais en effet penser et écrire des choses que je n'ai pas encore pu penser ou écrire. Plus précisément, j'aimerais écrire dans des formes dont je et des expériences de la langue, de la phrase, de la mise en texte dont je rêve depuis longtemps et que je n'ai jamais pu expérimenter, soit par défaillance ou impuissance personnelle, soit parce que cédant justement trop à d'autres urgences, j'ai retardé le moment de m'enfermer avec cette expérimentation d'écriture. Mais ce dont je rêve, c'est en effet d'une expérimentation d'écriture qui aille ailleurs ou plus loin que je ne suis allé jusqu'ici. Et cela suppose une certaine retraite, un certain retrait dont je ne me suis pas montré capable jusqu'ici. Évidemment, quand je dis expérimentation d'écriture, il ne s'agit pas d'exercice formel sur la page. Une expérimentation d'écriture, pour moi, est une expérimentation total, c'est-à-dire de la vie. Alors, c'est peut-être un peu tard, mais c'est ça qui me paraît le plus urgent. Même si je retarde ou desserre cette urgence, c'est toujours la forme de l'urgence penser et écrire et faire arriver par la pensée et l'écriture quelque chose qui jusqu'ici s'est peut-être annoncé mais ne s'est jamais montré comme tel.
Mais que vous désigneriez comment ?
Ah mais si je pouvais le désigner, ce serait fait. Ça n'a pas de nom. Souvent, je lui donne des surnoms. Tout ce que j'écris sur le mort, mais aussi sur le messianique ou sur l'événement. Dans tout ce que j'ai pu essayer d'écrire jusqu'ici, il y a des surnoms, des pseudonymes ou des métonymies de cette chose que j'attends ou que je voudrais provoquer ou dont j'attends qu'elle me provoque. Mais ça, par définition, je n'en ai pas la maîtrise ou le contrôle. Si ça arrive, ça m'arrivera. Ça m'arrivera. Et je verrai bien.
Il y a également une chose, une question que nous n'avons pas encore abordée, qui est celle finalement de votre rapport aux étrangers qui ont reçu qui ont accueilli vos travaux, votre réflexion. Et tout cet espace est relativement méconnu en France. Qu'est-ce qui le singularise pour vous, finalement, cet accueil que vous avez pu avoir, notamment depuis, disons, la fin des années 70 aux États-Unis, mais également ailleurs, en Italie.
Oui, n'insistez pas trop sur les États-Unis, parce que c'est un énorme préjugé entretenu par en France. Donc, d'abord, c'est aux États-Unis l'accueil, que je ne peux pas nier, bien sûr, est très contradictoire, parce qu'il y a beaucoup de rejets aussi aux États-Unis. Il y a toute une guerre contre moi aux États-Unis, contre moi, contre les travaux auxquels je suis associé aux États-Unis. Et d'autre part, dans des pays qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, l'accueil en question est aussi est encore plus généreux, si je puis dire. Alors, la singularité, là, il y aurait beaucoup à dire. J'isolerais ce trait ou ce fil. Alors que ce que j'écris et enseigne est corps et âme lié à l'idiome français et à l'idiome le moins traduisible. Et c'est même là une sorte de règle que je me donne d'écrire de façon assez idiomatique pour rendre la traduction difficile. Néanmoins, la lecture à l'étranger, loin d'en être découragée, en est au contraire intensifiée. C'est avec les traducteurs de tous les pays, les cosmopolites de tous les pays, les traducteurs de tous les pays, que je m'entends le mieux, que je travaille le mieux. Alors voilà une des choses très singulières. Et très difficile à penser par tout le monde. Comment se fait-il que ce soit le plus intraduisible qui se traduise le plus et qui passe le plus les frontières? Alors ça peut s'expliquer par toutes sortes de raisons que je ne peux pas ici inventorier. Je crois qu'une analyse politique ne serait pas suffisante, mais elle serait indispensable pour rendre compte de ce qui se passe là, sous le phénomène général ou le titre général de la traduction, au sens actif de ce mot. Il ne s'agit pas simplement de du transfert linguistique d'un contenu qui reste intact dans une autre langue, mais de tout ce qui est emporté par le mouvement de la traduction. Il y faut une analyse politique, mais non seulement politique, ça passe aussi par la psychanalyse, ça passe aussi par l'intérêt pour la technologie, par ce qui concerne ce que nous disions tout en commençant de l'académie, de l'institution. Et ces problèmes ont des analogues dans tous les pays. Donc il y a là quand même un nouvel espace public géopolitique mondial, de nouveaux trajets qui se dessinent. Et je crois que pour répondre à votre question, il faudrait naturellement faire la théorie de ces nouveaux trajets.
Mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui se passe dans les pays de l'Est, donc qui n'étaient pas du tout habitués à, disons, ni notre forme de réflexion, et qui n'ont pas eu, pour des raisons, disons, historico-politiques, la même formation à la réflexion philosophique. Donc vous avez été appelé également dans ces pays. Et alors, quelles étaient leurs demandes?
C'est la même chose pour les pays d'Amérique latine, et puis pour l'Espagne, et puis pour la Grèce. Il se trouve que j'y suis toujours allé, ou l'Afrique du Sud, juste après ce début de démocratisation, et donc dans des situations où, justement, ça s'ouvrait, où ce qui fermentait clandestinement auparavant trouvait enfin une voie publique. Et c'est dans cette situation-là, cet espace historique, que j'ai échangé avec les universitaires, les intellectuels, les écrivains de ces pays-là, qui ont trouvé dans ce qui s'était élaboré en France. Alors, on ne parle pas seulement de ce qu'on appelle la déconstruction, mais toutes sortes de mouvements et d'effervescence théorique et philosophique de la France des années 60-70, qui y ont trouvé de quoi reformuler de nouvelles questions à la mesure de leur nouvelle situation. Quelquefois d'ailleurs en y résistant, quelquefois en rejetant ce qu'ils surnommaient quelquefois très vite déconstruction ou postmodernisme ou structuralisme, poststructuralisme. Mais le plus souvent, ce n'était pas des mouvements de rejet, mais des mouvements d'appropriation pour à la fois penser et s'engager dans les nouvelles épreuves qui les attendaient. À la fois pour s'ouvrir à l'Occident et au marché, disons, et en même temps pour, dans certains cas, résister au dit marché.
Mais alors, ça a eu des effets sur votre propre pensée, ce type de dialogue ?
Ah, bien sûr, la possibilité. Alors, je ne peux pas naturellement dire telle ou telle rencontre a compté plus pour moi que telle autre. J'aurais du mal à, encore une fois, en faire le récit ou la chronique ici. Mais la possibilité pour le travail qui m'intéressait d'être en quelque sorte destiné à ou échanger avec ce qui se passait dans ces pays. On dit l'expérience de ces pays en voie de démocratisation qui sont une bonne partie de la planète aujourd'hui, n'est-ce pas ? De tout l'Est de l'Europe, toute l'Afrique, l'Amérique latine, etc., etc., la Chine. Je crois qu'il y a une, je dirais pas une synchronie ou une contemporanéité, je ne crois pas à la synchronie ni à la contemporanéité, mais il y a néanmoins une correspondance, disons, une correspondance entre ces travaux, je ne parle pas seulement des miens, français des dernières décennies, ce qui se cherchait en eux, et puis ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à la chute des régimes totalitaires de toutes sortes. Ils ont été variés, nombreux, et il ne faut pas les réduire aux mêmes, hein. Mais je crois qu'il n'y a rien de fortuit à ce que ces choses se soient passées en même temps, si on peut dire. Que je ne dirais pas naturellement que ce qui s'est passé en France a préparé la chute des totalitarismes. Néanmoins, je crois que ces choses appartiennent en même temps, qu'il faudrait penser ces 50 années d'après-guerre comme une grande séquence du point de vue de l'histoire du droit, en particulier du rapport entre le droit et l'État, la constitution en cours de nouveau droit international, tout ce qui dépend du concept de crime contre l'humanité défini à Nuremberg, avec tout ce que j'appelle la mondialisation de l'aveu, tout ce qui est actuellement en train de se déployer à l'échelle planétaire, sous la forme encore très biblico-chrétienne de l'aveu, du repentir, du pardon. Tout cela est à penser comme une immense séquence, non pas homogène bien sûr, mais une séquence qui a une certaine unité et qui définit l'après-guerre, la mémoire des totalitarismes d'avant la guerre, la Shoah, la définition du crime contre l'humanité. C'est dans cet espace-là que se produit cette mondialisation de l'aveu et des actes de mémoire qui a suivi de près l'effondrement des totalitarismes de l'après-guerre. Il n'y a pas de corpus, il y a une dispersion de textes, de discours, de personnes qui, en effet, appellent les modalités d'héritage. Le mot d'héritage lui-même est très... Moi, je crois que c'est une expérience de l'héritage, c'est une expérience fondamentale, mais le mot d'héritage est souvent... comporte souvent des connotations pieuses ou... Édifiante, dont je me méfie aussi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot. Il y a des passages, d'une génération à l'autre, d'un lieu à l'autre, une relance, une transmission et relance.
Oui, mais cette question de l'héritage pour un philosophe ou un penseur, elle se pose quand même de manière très très concrète. Il y a des philosophes qui font école, donc ils pensent à leur héritage, enfin, à ce qu'ils laissent.
Oui, on peut toujours y penser. Et qui pourrait nier qu'on pense? Déjà, le premier lecteur est un héritier. Vais-je être lu? Et est-ce que j'écris pour être lu? Et pour être lu ici, maintenant, demain ou après-demain? Cette question est naturellement une question inévitable. Mais elle ne se pose comme question qu'à partir du moment où je sais que je ne peux pas contrôler la chose. Que la condition pour qu'héritage il puisse y avoir, c'est que la chose à hériter, ici le texte par exemple, ou le discours, ou le système, ou la doctrine, ne dépendent plus de moi. Comme si j'étais mort à l'instant même, à la fin de ma phrase. Hein. Et comme de toute façon, je serai mort quand tel ou tel livre survivra ne serait-ce qu'un jour. Hein. Si le livre doit me survivre un jour, ce qui est la condition de l'héritage, il faut que ça soit comme si j'étais mort. Et que donc, à la perte de contrôle de ce que j'ai laissé passer, la question de l'héritage soit la question de l'autre, soit la question laissée à l'autre. La réponse est à l'autre. Alors naturellement, on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce que fera l'autre, mais ce qu'on ne peut pas ne pas souhaiter, c'est que la réponse soit la réponse de l'autre, et non pas la mienne, que la réponse ne soit pas dictée par moi, et que l'autre, même s'il est sous l'autorité ou sous la loi de mon testament, par exemple, ne se détermine que de lui-même. Et je souhaite qu'il se détermine de lui-même. Je ne souhaite pas que les lecteurs ou mes héritiers de la famille ou ailleurs de la famille se constituent en héritier autrement que librement. S'ils le faisaient sous contrainte, je ne les considérerais pas comme des héritiers. Donc il faut que je renonce à être derrière ce que je dis et ce que je fais et ce que j'écris pour que la question de l'héritage se pose.
Mais c'est aussi pour ça que vous n'avez jamais voulu, comme on dit, faire école. Enfin, bon, vous auriez pu vous organiser.
Oui, je ne suis pas sûr. Je crois qu'en effet, je n'ai pas fait école. Mais je ne suis pas sûr d'avoir organisé les choses pour ne pas faire école. Si j'ai, dans la mesure où j'ai sans doute fui ce phénomène d'école, c'est peut-être parce que je sentais bien que ceux qui héritent parce qu'ils sont dans l'école ou parce qu'ils reproduisent scolairement des modèles ne sont pas de vrais héritiers. Hein. Ils appliquent ou ils reçoivent, ils reproduisent, mais ce ne sont pas de vrais héritiers. Les héritiers, s'il y en a authentiques, les héritiers qu'on peut se souhaiter, sont des héritiers qui ont assez rompu avec l'origine ou le père ou le testateur ou l'écrivain ou le philosophe pour aller de leur propre mouvement signer ou contre-signer leur héritage. Et la contre-signature suppose en principe une liberté absolue.
Une forme d'infidélité ?
Une
forme d'infidélité aussi ?
Une possibilité d'infidélité, évidemment. Il n'y a pas de fidélité pour quelqu'un qui ne pourrait pas être infidèle. C'est à partir de l'infidélité possible qu'on se rend à l'héritage, qu'on l'assume, qu'on reprend et qu'on contre-signe l'héritage pour le faire aller ailleurs. Et pour le faire respirer autrement. Si l'héritage consiste à simplement entretenir des choses mortes et des archives et à reproduire ce qui fut, ça n'est pas ce qu'on peut appeler un héritage. L'héritier doit contresigner signer autre chose, la même chose et autre chose, et faire advenir autre chose. On ne peut pas souhaiter un héritier ou une héritière qui n'invente pas l'héritage, de certaine manière, hein, qui ne le porte pas ailleurs, dans la fidélité. Une fidélité infidèle, naturellement. Là, on retrouve cette double injonction qui ne nous quitte pas.
Et alors, vous-même, vous vous sentiez héritier de qui? De Gide? De Nietzsche?
mon problème, ou ma chance, justement, et c'est ce qui me pousse à réfléchir sans cesse sur l'héritage, c'est que je suis l'héritier d'un grand nombre.
j'appartiens à un grand nombre de filiations. Alors, c'est assez commun, d'ailleurs. Mais je dois dire que, du point de vue culturel, j'ai eu la chance de naître en Algérie, dans une communauté juive, de langue française, qui, à travers toutes sortes de guerres, a, en quelque sorte, est dans la tragédie, croisé toutes sortes de filiations. Hein. Et puis, dans la culture, disons, qui est la mienne, je n'en finirai pas de citer mes pères et mes mères. Hein. Alors, ça me donne aussi beaucoup de liberté, parce que vous savez, quand la filiation est multiple, eh bien, on joue l'un contre l'autre, l'un sans l'autre, et puis on revient. Mais, d'ailleurs, je crois, alors, pour parler au-delà de mon modeste cas, je crois qu'une filiation est toujours multiple. Je ne crois pas qu'il y ait une filiation. Une filiation unique n'est pas une filiation. Elle est toujours multiple. Alors, plus ou moins multiple, plus ou moins enchevêtrée, mais il y a toujours plus d'un père et plus d'une mère.